C'est un doux tapis humide, une sorte de forêt miniature où se glissent les gouttes, s'incrustent des champignons et vivent des tardigrades. Mais c'est aussi parfois une moquette rêche qui cuit au soleil. En tout cas, c'est toujours si petit qu'on n'y prête pas attention. Pour observer les mousses, arpenter ces mondes si variés, minuscules et changeants, il faut se mettre à leur hauteur, croquer le biscuit magique d'Alice, rétrécir et se laisser surprendre. Vous voyez les petits coussinets verts de moins d'un centimètre de haut, installés sur le bord de l'église ? Choisissez-en un et laissez-vous guider. Vous êtes prête ? Bienvenue dans le monde de la barbule des murs, Tortula muralis, une des mousses les plus communes à Toulouse, et plus généralement en ville, où elle se plaît. Il n'y a pas à dire, c'est humide et dense par ici. Faudrait des bottes, voire selon les moments, une combinaison de plongée. Glissez-vous entre ces touffes de feuilles, en forme de langues serrées les unes contre les autres autour de la tige. Quelle finesse ! Si vous portez le regard tout au bout, vous apercevrez une petite pointe argentée, une des particularités de la barbule des murs. Et en deçà de cette texture moelleuse où vous avez vos pieds, ne vous attendez pas à trouver des racines. Comme toutes les autres mousses, elles s'ancrent au sol grâce à ce qu'on appelle des rhizoïdes. Car les mousses, comme tous les bryophytes, le groupe auquel elles appartiennent et qui comprend aussi les hépatiques et les anthocérotes, sont ce qu'on appelle des plantes non vasculaires. À la différence d'un arbre ou d'une pâquerette, elles n'ont ni vaisseau, ni sève, ni racines pour puiser des ressources dans le sol. Mais elles ont ces rhizoïdes, des sortes de minuscules filaments qui leur servent à se fixer à leur support. Pour le reste, elles se débrouillent en absorbant l'eau et les substances nutritives à la manière d'une éponge, directement dans leur tissu, par leurs tiges et leurs feuilles. Notez donc qu'elles ne font de tort ni à l'arbre ni à l'herbe sur lesquelles elles s'installent. Simplement, cette caractéristique a l'avantage de les rendre moins exigeantes en termes de substrat. Et si elles ont chacune leurs préférences, tronc, blocs calcaires, de craie, briques, goudron, terre, parfois même déjections canines, on trouve des mousses dans le monde entier et dans tous les milieux, même aquatiques, à l'exception des milieux marins. Vous aurez peut-être vu, au-dessus des feuillages, se dresser une sorte de tige, toute fine, avec à son extrémité une capsule oblongue, un genre de petit sac. Eh bien, ce n'est pas exactement une tige, mais une soie. Et chez les barbules des murs, elles sont dressées bien plus haut que l'extrémité des feuilles, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en fonction de l'humidité et de la période, elles arborent des couleurs allant du vert au brun rougeâtre. Soie et capsule sont une des parties reproductrices de la plante. Et c'est dans les capsules que sont contenus les spores. La vie sexuelle des brins de mousse n'est pas simple, mais retenez qu'elle se fait par dispersion de spores, comme pour les fougères, et non par graines, comme pour les plantes à fleurs. Elles peuvent aussi se reproduire de manière végétative, par simple multiplication d'elles-mêmes. Un grand classique chez les plantes, dont les jardiniers savent tirer profit pour cultiver notamment les fraises et les patates.
Droit devant ! Un tardigrade là-bas, sur un brin de mousse !
Tardigrade, marcheur lent. Il porte bien son nom, celui-là. On dirait un ours mutant miniature et maladroit. Il doit mesurer max 1 mm, comme beaucoup des habitants des mousses. Car on se le figure mal, mais elles abritent de nombreux animaux. Petits insectes, collemboles, nématodes, et même des rotifères. Ça ne vous évoque peut-être pas grand-chose, c'est un monde trop minuscule. Mais ces bêtes-là contribuent à la biodiversité des sols, en aidant à disséminer et réguler les micro-organismes bien plus petits que les mousses, ce qu'on appelle la microflore, et en participant à la circulation des nutriments essentiels aux végétaux. Et ce n'est pas tout. Certaines espèces de mousses permettent à des phasmes, mantes religieuses ou grenouilles, de se camoufler. Parce que les oiseaux rôdent, entre autres prédateurs, et menacent. Certains viennent même se servir tranquillement dans les tapis, coussins, touffes ou trames de mousse pour fabriquer leur nid. Le troglodyte mignon en est un spécialiste. Mais les petits mammifères que sont les loirs et les écureuils ont eux aussi bien saisi l'utilité des bryophytes pour la fabrication d'un nid douillet. Mais curieusement, il semblerait que personne ne s'en nourrisse. Quant à savoir si c'est qu'elle est toxique, indigeste ou si ce sont les autres qui le sont, mystère. Ça y est, la rosée du matin s'est déjà évaporée. Vous sentez ? Il fait un peu plus chaud et le paysage a légèrement changé. C'est maintenant un brun grisâtre qui l'emporte sur le vert et tout semble se rétrécir.
Les feuilles se sont légèrement enroulées sur elles-mêmes. C'est sec. Quel tableau, on se croirait soudain dans la garrigue. S'ils affectionnent les milieux humides et ombrageux, les amphibiens du monde des plantes, comme on appelle parfois les bryophytes, sont tout à fait capables de résister à la sécheresse. Tout comme les lichens, une mousse sèche n'est pas forcément une mousse morte. Car elles peuvent perdre jusqu'à 90% de leur eau et se tenir, pour certaines, jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines d'années dans un état de déshydratation, de dessiccation, disent les scientifiques, en attendant des jours meilleurs, plus humides. Faites le test. Quelques gouttes d'eau peuvent suffire à relancer la photosynthèse. Ce phénomène s'appelle la reviviscence. Les mousses tiennent leur dépendance à l'eau d'il y a environ 500 000 ans. Car oui, elles nous viennent du tout début de l'histoire de l'évolution végétale, après que les algues soient sorties de l'eau et avant l'apparition des prêles et fougères. C'est pourquoi on les appelle des plantes primitives. Des plantes qui n'ont pas encore développé de tissus conducteurs spécialisés, ne peuvent pas se dresser et dépendent de l'eau pour leur reproduction et leur développement, ce qui explique pourquoi elles doivent se tenir à ras de terre. Les mousses ont gardé de cette époque lointaine leur fonctionnement et leur petite taille. On les appelle aussi des plantes pionnières, car dans le cycle de colonisation d'un milieu par les plantes, elles arrivent dans les premières. Elles créent par exemple sur une pierre un minuscule biotope, une poche d'humidité où se déposent et se transforment des petits débris, des bouts de feuilles, qui se mêlent de minéraux détachés du support, quand ce n'est pas la mousse elle-même qui se décompose. Certaines se décomposent par le bas autant qu'elles poussent par le haut. Et tout cela forme un humus, un genre de terreau, où pourront bientôt pousser d'autres plantes racinaires un peu plus exigeantes, comme le nombril de Vénus, par exemple. Dans les rues de Toulouse, vous pouvez aussi admirer la grimie encoussinée, Grimia pulvinata. Elle a la particularité de bien tolérer les pollutions et la sécheresse. La grimie forme des petits coussinets ronds de maximum 4 cm de diamètre et compacts, pour bien retenir l'humidité. Ses touffes s'élèvent jusqu'à 2 cm de hauteur et lui donnent des allures de fourrure avec des reflets grisâtres à argentés par temps sec et vert foncé par temps humide. Les Anglais l'appellent la mousse hérisson. Nous n'avons que des traductions du latin pour nos mousses. Orthotrichia parenté, hypne soyeux, ceratodon pourpre, lunulaire commune, pour ne citer que des espèces qu'on peut trouver à Toulouse, voire pas de traduction du tout, Orthotrichum diaphanum. C'est pas un nom, ça. C'est dire le peu de relations que nous entretenons avec elle. Et ça ne date pas d'hier. Écoutez plutôt ce qu'en disait l'encyclopédie Diderot et d'Alembert en 1751, citée par Véronique Brindeau dans son livre « Louange des mousses ».
Les botanistes divisent ces sortes de plantes en divers genres, sous lesquels ils constituent plusieurs espèces différentes, et même si nombreuses, que dans les environs de Paris, M. Vaillant en comptait jusqu'à 137. Mais comme elles n'ont aucune beauté, encore moins d'utilité, il serait inutile d'en faire l'énumération. Que dis-je ? Il faudrait trouver le secret de détruire toutes ces sortes de plantes si nuisibles, qui vivent aux dépens des arbres, les rendent malades et les font périr en dérobant, en interceptant leurs sèves par une infinité de petites racines.
Et avec ça, tout un arsenal de techniques d'éradication de ce mal végétal. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, grâce au travail du botaniste et médecin allemand Johannes Hedwig, considéré comme le père de la bryologie, que les mousses se font une place véritable dans la science botanique. On compte aujourd'hui une trentaine d'espèces de mousses à Toulouse, environ 1000 en France métropolitaine, 1800 en Europe et 13 000 dans le monde, ce qui en fait le deuxième plus grand groupe après les plantes à fleurs. Mais leur réputation est tenace, et par chez nous, on prend beaucoup de soin à les déloger de nos toits, nos gouttières et nos trottoirs. Sortis du cercle très réduit des spécialistes, qui se soucie du sort des bryophytes ? À Toulouse, vous aurez beaucoup de mal à en trouver dans l'hypercentre, où on leur mène la vie dure, comme dans de nombreux jardins d'ailleurs. Pourtant, ce sont des plantes chlorophylliennes, qui elles aussi contribuent, à leur échelle, à purifier l'air et participent à maintenir l'eau en milieu urbain. Elles représentent même un marché. On les vend en rouleaux, pour climatiser les intérieurs, couvrir les toits et les murs de nos maisons, car elles constituent une très bonne isolation thermique et acoustique. Leur utilisation par les êtres humains n'est d'ailleurs pas récente. On se servait de certaines d'entre elles pour calfater les bateaux, calfeutrer les maisons, faire des cordes ou des matelas. on conservait des aliments dans les sphaignes, les mousses des marais. En Irlande, on a retrouvé du beurre datant de 2000 ans dans une tourbière. Et ce n'est pas tout. Les femmes se servaient de ces mêmes sphaignes comme protection périodique. Il se pourrait même que cet usage vienne de l'époque préhistorique. On a trouvé dans l'estomac de la momie Ötzi, découverte en 1991, les traces d'environ 35 espèces de mousses différentes. Mais on ne sait pas à ce jour si cet homme préhistorique en mangeait, s'en servait pour emballer ses aliments, pour protéger ses mains quand il utilisait son poignard, s'en servait de pansement ou autre. L'utilisation pour panser les plaies est avérée pendant les deux guerres mondiales, où l'on mettait à profit leurs propriétés absorbantes et homéostatiques. Et puis, on s'en est aussi pas mal servi comme papier toilette. Enfin, des mousses portent le nom d'hypne, en référence à hypnose, la personnification du sommeil, parce que le célèbre botaniste Linné avait entendu dire que dormir sur un oreiller de mousse permettait d'accéder à un meilleur sommeil. Bon, ce n'est pas avec les mousses toulousaines qu'on va faire des cordages ou éradiquer les insomnies. Il faut dire que le climat ne leur est pas très favorable. Elles préfèrent la Belgique, l'Irlande et autres contrées humides, comme le Japon, où on leur rend des hommages qu'elles méritent. Au pays du soleil levant, on les cultive, leur consacrant de magnifiques jardins. L'hymne national en fait mention, tout comme de nombreux poèmes, alors que nos imaginaires à nous, les Bouddhes, ou au mieux, guidés par Francis Ponge, ne les considèrent pas autrement que comme des terrains de tissu éponge, des paillassons humides.